carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'architecte Claude Parent, membre de l'Académie des Beaux-Arts, a préféré au cours de sa vie explorer ce qu'il a appelé avec son complice dans les années 60, Paul Virilio, la fonction oblique. À l'habituelle pensée orthogonale de Le Corbusier, Claude Parent proposait une réflexion sur les plans inclinés qu'il a su imprimer dans son œuvre construite et dans son œuvre graphique, pour reprendre le sous-titre de l'exposition que lui consacre la Cité de Chaillot, la Cité du patrimoine et de l'architecture à Paris, du 20 janvier au 2 mai 2010. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir un architecte et son œuvre dans une exposition dont la scénographie est signée par Jean Nouvel. Assisterions-nous à une renaissance de l'architecture avec le projet du Grand Paris qui place l'art de l'architecture au cœur du débat public? En son temps, l'architecte Claude Parent a suscité lui aussi de nombreux débats autour de ses créations architecturales. Précurseur, utopique, transversal, l'homme est aujourd'hui âgé de plus de 80 ans. Sa pensée joue un rôle essentiel dans le renouveau de l'architecture. Retrouvons Jean Nouvel le jour du vernissage de l'exposition qui s'exprime sur l'esprit de continuité entre son architecture et celle de Claude Parent. Jean Nouvel, vous avez fait vos premières armes dans l'agence de Claude Parent quand vous étiez jeune.
Être là-bas, c'était être dans un petit bureau où il y avait en même temps Paul Virilio qui passait à ce moment et qui aimait beaucoup parler, développer un certain nombre de théories qui sont les siennes sur l'avenir du monde. Et Parent qui avait ses convictions plastiques très très fortes. Donc quand vous sortiez des Beaux-Arts et que vous étiez là-dedans, ça vous faisait un petit choc, quoi.
Que représentait Claude Parent à ce moment-là à vos yeux de jeunes architectes en formation ?
Mais c'était un explorateur, quelqu'un qui représentait l'avant-garde un peu à l'époque, hein, qui était en même temps, il était quand même proche de Bloch, donc d'architecture d'aujourd'hui. Ses bâtiments étaient publiés, quand même étaient montrés comme des questions finalement. Hein. Donc moi, quand je suis entré aux Beaux-Arts et que j'ai essayé d'aller travailler, faire la place, comme on disait à l'époque, puisque les Beaux-Arts étaient toujours basés sur ce parallèle entre ce qu'on enseignait à l'école et ce qu'on apprenait de façon professionnelle dans les agences où on y travaillait, j'ai évidemment essayé d'aller travailler là, ce qui était le but de pas mal d'architectes de l'époque d'ailleurs. Non, moi je crois que ça se passe de façon logique, c'est-à-dire qu'on s'est demandé, ils s'est demandé où ils sont demandés, je ne sais pas qui pouvait faire la scénographie de l'exposition de Claude Parent. C'est vrai que, bon, très logiquement peut-être, c'est arrivé sur moi, ça aurait pu arriver sur 2 ou 3 autres personnes, mais ça devait arriver à quelqu'un qui avait une histoire commune avec lui, ou qui était proche de sa façon de voir les choses. Donc il y a quand même un esprit, je dirais, de continuité ou de filiation, c'est peut-être trop, mais en tous les cas, il est sûr que ce que je suis, je ne le serais pas si mes parents n'étaient pas là. Donc, ensuite, le phénomène de connaissance ou de reconnaissance, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire à travers les époques. On verra où j'en serai quand j'aurai son âge, mais je crois que c'est quelqu'un qui, dans le milieu architectural, a toujours eu une très forte aura et de très forts ennemis, ce qui va ensemble.
Quelle notion Claude Parent vous a-t-il transmise ?
Je ne ferai pas appel à mon psychanalyste, mais il faudrait que je passe appel à quelqu'un d'autre. Mais je pense que les notions qu'il m'a inculquées sont toujours présentes dans mon travail. Maintenant, chacun, après, met ça en relation avec ses propres convictions, avec l'évolution des techniques. Mon but n'a jamais été de faire du Claude Parent, mais tout le travail sur la masse, par exemple, si je prends un projet comme l'Opéra de Tokyo, que je n'ai pas construit, mais qui est un des projets les plus connus, c'est un travail, c'est poussé au bout, c'est peut-être cette notion de travail sur la masse. Quand je travaille après le Quai Branly, par exemple, où le principal espace d'exposition, la Grande Galerie sur les 200 mètres, c'est 2 plans obliques qui sont à l'intérieur comme ça, et c'est 180 mètres de rampe pour y arriver, c'est quand même quelque chose qui n'est pas indépendant de tout ça non plus. Si je fais la Philharmonie comme ça, et je ne m'en suis pas caché, j'ai dit immédiatement quand j'ai gagné que c'était un hommage à mes maîtres et à Claude Parent en premier, c'est que si je décide de faire une colline artificielle, un peu comme les buts de Chaumont, et de rendre ce bâtiment escamotable, et que tout le monde se promène un peu partout, et puisse monter sur ce bâtiment par n'importe quel endroit et par n'importe quelle rampe, on se retrouve là avec évidemment une application et toutes les salles autour qui tournent autour de la salle et qui l'enroulent comme ça. C'est évident que c'est quelque chose aussi qui n'est pas sans relation avec l'éducation que j'ai reçue.
Que reste-t-il, Jean Nouvel, à votre avis, de la thèse de la fonction oblique aujourd'hui ?
Elle est vivante, c'est-à-dire que ça a ouvert la tête de beaucoup d'architectes. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à me servir de ces notions-là. On parle souvent de Zaha Hadid ou de Rem Koolhaas qui s'en servent aussi, et d'autres. Bon, mais je crois que l'oblique a repris une position qui est souvent à la base des compositions, qui est autre chose qu'une simple rampe pour passer d'un niveau à un autre. Ça devient souvent les principes d'organisation généraux d'un bâtiment. Et ça, je crois que ça part des études de Claude Parent et de Paul Virilio.
De son idée de parcourir le monde avec l'oblique, est-ce que ça nourrit toujours les imaginaires ? Aujourd'hui, les nouvelles générations d'architectes semblent se référer à Claude Parent.
Je crois qu'on redécouvre ce qu'historiquement ça voulait dire. On redécouvre que finalement, avant, l'oblique était un contrepoint, finalement. On savait très bien que Le Corbusier, dans tous ses plans qui étaient orthogonaux, à un moment, il introduisait quelque chose qui était en biais. C'était une sorte de point comme ça pour faire vibrer les choses, je dirais. Et puis souvent, il y avait effectivement ou un bout de rampe, mais c'est souvent dans le plan lui-même aussi. Là, c'est un renversement, c'est-à-dire que c'est l'oblique qui devient le principe d'organisation ou qui devient l'élément majeur. Donc ça, on se rend compte qu'historiquement, c'est effectivement une chose qui a été assez rare.
Vous avez des points de divergence avec cet acquis de Claude Parent ?
Non, je n'ai pas de divergence, c'est-à-dire que je pense que lui-même n'est pas automatiquement un oblique à 100%, je dirais. Bon, effectivement, en fonction des programmes et tout ça, bon, l'oblique est simplement une ouverture de notre vocabulaire, et simplement la façon de gérer un programme, c'est la façon d'ouvrir des possibilités qui n'étaient pas là. Donc on peut générer des espaces avec une autre théorie, avec une autre base. Ça reste comme une extension du vocabulaire, comme une arme ou une stratégie de plus. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui les théories de l'architecture sont aussi utopiques ou révolutionnaires ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un vocabulaire adapté ?
Les utopies se déplacent, moi je crois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit dans notre monde occidental, en tous les cas, les villes qui se sont construites comme elles sont construites, avec cette rapidité, avec cet entassement et dans l'urgence, cette médiocrité, souvent, on sait très bien que la principale tendance aujourd'hui, c'est de modifier tout ça et pas d'aller refaire une ville à côté, mais de savoir comment on va rendre... Donc l'utopie aujourd'hui, ce sont les moyens de mutation de la ville. Mais ce n'est pas détaché de notre problème, ils peuvent jouer aussi avec tout cela. Mais c'est plus, par rapport aux utopies des années 60, c'est plus la reconstruction de ville en soi, comme ça, de ville à l'extérieur.
C'est une adaptation aux contraintes ?
Non, je crois que c'est une
climatique ou environnementale.
C'est une philosophie.
C'est-à-dire,
on voyait déjà apparaître ça. Moi, j'ai toujours trouvé que Blade Runner, le film de Ridley Scott, à partir du roman de Philip Dick, était formidable, parce qu'on voyait en même temps que le temps qui passe, ce n'était pas la destruction totale de ce qui existait. On voit confronté dans le film les archaïsmes de la ville même du 19e siècle.
Oui, avec cette architecture métallique.
Avec cette architecture, ces images qui volent dans le ciel. Et c'est dans ce rapport de l'un et de l'autre qu'il y a la dimension poétique la plus grande et où on sent le temps qui a passé et l'écart qui est entre les choses. Alors que souvent les romans de science-fiction ou les dessins des architectes d'ailleurs sont des mondes en soi, comme ça, comme s'il n'y avait pas de passé, comme s'il était sur la table. Ce qui a changé aujourd'hui vraiment radicalement, c'est qu'on sait que la table n'est plus rase et qu'elle ne sera jamais rase. Voilà. Donc c'est le grand changement sûrement depuis les années 60.
C'est ce que vous avez aussi défendu, je crois, ici même lors de votre leçon inaugurale. Cette
oui.
façon de penser, ne pas faire table rase.
Bien sûr.
Claude Parent, en son temps, a défendu l'inverse par moments.
Oui, mais c'était plus les thèses de l'époque, c'est
voilà,
vrai. Il a même défendu un pari parallèle, oui, c'est oui. ça. Oui. Mais ça, c'était les thèses de l'époque, les thèses historiques étaient plus basées sur ça. Ça, je crois que c'est un des grands changements historiques. Oui. Et c'est pour ça que les travaux sur le Grand Paris aussi, c'est un travail sur la mutation, comme ça, c'est un travail sur la transformation.
Est-ce qu'on peut dire que dans le Grand Paris, ce que vous voulez faire aussi sur des toits ou de votre aménagement de l'existant, dans cette volonté d'utiliser tous les espaces des bâtiments, ça rejoint ce courant initié par Parent ?
Non, mais non. Même si vous changez l'hypothèse urbaine, l'outil qui a été mis en place à partir de cette position théorique, il reste là. C'est-à-dire que dans un bâtiment orthogonal comme celui-là, ou je sais pas, vous pouvez mettre ça tout à fait un oblique, si vous voulez. Là, ça a une échelle où on peut commencer à le faire. Moi. Donc il y a de plus en plus d'espaces comme ça qui jouent sur cette confrontation, sur l'exploitation de ces échelles par rapport à l'orientation de l'espace, qui, à mon avis, n'aurait pas eu lieu sans cela.
Pensez-vous que le rapport des arts et de l'architecture, qui était celui de Claude Parent, et qu'il a expérimenté, est aujourd'hui poursuivi avec la même audace et la même modernité ? Parce qu'à l'époque, ça me semblait très novateur. Travailler avec Yves Klein, enfin avec...
Oui, mais
aujourd'hui, est-ce qu'on a
toujours eu envie de travailler avec les artistes. Ça a toujours été pour la collaboration avec les artistes. Et je crois que c'est une attitude qui était en avance, celle-là aussi, parce que On a quand même vu au XXe siècle une dissociation d'abord très forte, comme si finalement, une fois encore, on voulait effacer l'histoire. L'architecture mère des arts, celle qui intégrait et la sculpture et la peinture dans ses bas-reliefs, dans ses plafonds, etc., bon, c'était récusé. Et finalement, on découvrait beaucoup plus une sorte de ponctuation par des œuvres architecturales où les espaces voués entièrement à l'art qui étaient dissociés de l'architecture. Et je crois que maintenant, on va de plus en plus vers, à nouveau, et une tendance, en tous les cas, c'est ma tendance et celle de quelques-uns de mes amis, qui tend à dire l'art n'est pas fait directement pour le musée, il est fait d'abord pour être vécu, et l'art et l'artiste doit être là dans les mutations urbaines et dans les grands projets urbains initialement. Et le travail doit se faire ensemble. C'est une sorte d'osmose où, à un moment, l'art est intégré à l'architecture, mais pas pour être digéré. Parce que cette stratégie, elle va être sensible et elle va être déterminée en relation à les artistes. Or, comme on voit quand même que les gestes architecturaux ou les programmes sont de plus en plus larges, c'est idiot dans un aéroport d'avoir uniquement deux petites fresques, une petite statue à l'entrée, je ne sais pas quoi, bon, ça ne fait aucun sens. Bon, c'est cette dimension, quand on voit le land art qui est fait avec les pistes d'aéroport la nuit, bon, c'est trois fois plus fort que n'importe quelle petite œuvre d'art qui sera mise là. Donc, c'est bien ces nouveaux apports qui sont liés à l'évolution des moyens artistiques, à la transversalité de l'art aussi et à toutes les techniques qu'il intègre maintenant, qui font qu'architecture et art sont un nouveau parti pour se souder ou pour se relier. Et ça, par an, était effectivement dans le travail avec l'artiste et pas uniquement dans « je mets une œuvre d'art dans mon architecture voilà. ».
Quel regard vous portez sur l'œuvre graphique de Parent, justement, puisque c'est un exemple aussi, lui-même, mais c'est pas seulement un architecte, j'ai l'impression, quand je vois ses dessins, que c'est aussi un artiste.
Moi, je crois mais que c'est un artiste qui a comme sujet
votre regard.
La ville et l'espace et ses variations en fonction de ses thèmes, mais pour moi, c'est la même veine, avec quelques siècles de différence, que Piranèse, Boulet et quelques autres. C'est-à-dire que c'est une exploration mentale d'un certain nombre de rêves ou de supputations et de sensations, évidemment, qu'on ne connaît pas. Et de ce côté-là, c'est évidemment un témoin important.
Jean Nouvel, vous avez fait la scénographie de cette exposition consacrée à Claude Parent. Comment avez-vous articulé justement les deux pans de son œuvre, l'œuvre construite et l'œuvre graphique ?
Non, si on parle de 5 minutes du concept de l'exposition, bon, c'est d'abord de mettre en relation l'œuvre graphique et l'œuvre construite. Et l'œuvre graphique à travers cette dimension dont je viens de parler, c'est-à-dire que les dessins de la main de Parent depuis le début jusqu'à aujourd'hui, puisque Claude Parent a eu une maladie qui l'a empêché de travailler comme il travaillait avant dans les années 70, puisqu'il a fait un infarctus et qu'à ce moment-là c'était encore plus compliqué que maintenant, mais par contre il a toujours continué à dessiner. Et donc ce grand mur là qui fait 30 mètres de long avec tous ses dessins et qui prend la grande courbe de ça, bon, c'est une sorte de base et de fil continu en relation avec lequel il y a ce qu'il a construit ou les expérimentations qui ont été faites dans les expositions ou ailleurs. Et donc il y a cette position qui est prise de rappeler qu'il y a toujours cette vision préalable et ce fil conducteur qui est celui de cette pensée qui tourne à 80% sur l'oblique d'ailleurs, ou le travail sur la masse, ça dépend des moments, et on peut lire la relation entre les deux, voilà.
Il a un grand humour, M. Parent, sur les portraits d'architectes, et il vous a croqué.
Ah ben oui, bien sûr.
Comment vous aviez réagi à ce dessin ?
J'ai été croqué non seulement en images, mais en texte aussi, en
oui.
Parole.
Hein, oui.
En traits au sens de la bruyère, hein, en traits de caractère. Mais c'est normal, il adore ça. Il m'envoie des petits croquis comme ça, on a fait des voyages ensemble, il m'envoie des petits croquis. Très, très humoristique toujours, il est un dessinateur humoristique fabuleux. Oui, oui.
L'homme vous a beaucoup appris ?
Ben, il m'a appris beaucoup de choses, oui, c'est sûr. Ironiquement, pour ses 80 ans, on avait fait un livre où j'avais fait un texte qui commençait par « Je ne lui dois rien » pour mieux expliquer, ou c'était ironique, pour mieux expliquer la relation qu'il y avait entre mes attitudes et mes projets et l'endroit où j'étais passé.
Dans votre projet de la Philharmonie de Paris, que vous avez présenté récemment, Jean Nouvel, et qui va être implanté dans le parc de la Villette, y a-t-il des points communs avec l'œuvre majeure de Claude Parent, l'église Sainte-Bernadette du Banlay ?
Sainte-Bernadette, c'est un travail sur la masse essentiellement, et sur l'esthétique bunkérienne, je dirais, et sur ce qui était très, très étonnant à Sainte-Bernadette, c'est le transfert fait avec Virilio d'une architecture sur la masse comme ça, qui est basculée par la fracture, mais qui devient une architecture spirituelle, alors que toutes les églises ont joué sur l'élévation, souvent sur le rythme après, par la lumière attaquée là-haut et la rythmique, etc. Bon, là, il y a une sorte de déviation qui va de l'esthétique militaire vers l'espace spirituel, qui est assez étonnant.
Parlez-nous, Jean Nouvel, de votre projet de la Philharmonie de Paris ?
La Philharmonie, c'est simplement le fait de l'avoir voulu créer dans l'esprit du projet une extension du parc, finalement un peu comme Alphand, une colline depuis laquelle on regarde Paris, et une grotte en dessous dans laquelle on se protège quand il pleut, et donc d'un bâtiment qui devient tout d'un coup une sorte de géographie comme ça, et sur laquelle on se promène, et depuis laquelle on va voir et Paris intramuros, et le Grand Paris, et la banlieue, et les périphes, et tout ça. Bon. Donc c'est une chose qui n'existe pas vraiment dans une dimension publique comme ça, et qui est intéressante dans la mesure où c'est partie intégrante d'un parc. C'est pour ça que ce travail sur le parc, j'essaie de le faire en articulation avec Bernard Tchoumi d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement on se retrouve dans des parcours qui sont toujours sur l'oblique, quoi, par la force des choses, puisqu'on passe toujours d'un niveau à un autre, on escamote un volume, il y a des petites rampes pour montrer comme des lacets de montagne pour arriver à monter dessus, etc. Bon. Et on est souvent, en tous les cas, puisqu'autour de la salle qui est enveloppée, il y a les foyers qui se développent et ils sont aussi sur des espaces qui sont ascensionnels, comme ça. Bon, donc c'est vraiment, je suis à 100%, je dirais, le principe d'organisation dynamique sur l'oblique et pas du tout dans une composition corbusienne ou baossienne où j'aurais eu des plans comme ça et des choses qui rejoignent très bon. Donc là, je suis effectivement dans quelque chose que j'ai appris, si je me souviens bien, du côté de la rue Madeleine Michelis à Neuilly.
Merci à Jean Nouvel d'avoir parlé au micro de Canal Académie de la Philharmonie de Paris qu'il a conçue et dont les travaux débutent pour doter Paris d'un grand auditorium. Mais surtout, merci à lui d'avoir évoqué Claude Parent le jour du vernissage de la rétrospective Claude Parent, œuvre construite, œuvre graphique, dont il est avec quelques autres à l'origine et dont il est aussi l'auteur de la scénographie. La Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris présente donc du 20 janvier au 2 mai 2010 l'exposition Claude Parent, l'œuvre construite, l'œuvre graphique. Pour tout renseignement, consultez le site internet de la Cité de Chaillot et retrouvez sur Canal Académie d'autres émissions avec et sur Claude Parent.